Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Notre histoire d'aujourd'hui commence sous l'Empire comme un récit d'aventure destiné aux enfants. Vous savez, les grands récits, il était une fois un petit garçon de 12 ans qui s'appelait René et qui venait de perdre sa pauvre mère. Oh, il y a quelque chose de misérabiliste dans cette histoire. Son père, qui avait autrefois été commis boulanger, était mort au bagne depuis 3 ans déjà. Le petit garçon était donc orphelin. Il vivait chez sa grand-mère à Mosée. On est en Aunis, pas très loin de La Rochelle, si vous voulez situer. Il est malheureux, cet enfant, comme le sont souvent les orphelins. Alors il cherche à noyer son chagrin dans les livres d'aventure. Et du reste, à l'école, les petits copains l'appellent Robinson. Il en a lu et relu les aventures. Il connaît cette histoire de Robinson par cœur. Mais quand je dis par cœur, c'est qu'il est capable de réciter des pages entières de Defoe. À l'école, c'est ce qu'on appelait les petites écoles encore à l'époque, hein, c'était pas les écoles obligatoires. Enfin, à l'école du village, il se passionne pour les quelques leçons de géographie que lui dispense le maître. Et ce qui l'intéresse le plus, c'est l'Afrique. Cette Afrique dont on ne connaît encore pas grand-chose à l'époque. On en connaît les côtes inhospitalières, dont les Portugais, les Anglais, les Hollandais et les Français ont essayé de faire la conquête. Ils y ont installé pas mal de comptoirs. On n'ignore pas grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, c'était l'époque où l'on avait encore ces cartes blanches qui faisaient évidemment rêver tous ceux qui nourrissaient en eux un véritable ferment d'aventure. On peut dire que pour René Caillé, cette Afrique mystérieuse est une vérité, un véritable appel. Il lit beaucoup, je vous dis, il s'informe et il apprend que au sud du Sahara existerait une ville extraordinaire. On la sait entourée de 7 montagnes, baignées d'un fleuve qui charrierait de l'or par pépite. On appelle ce fleuve le Nil des Nègres, le Niger. C'est, dit-on, c'est ce qu'écrivent en tout cas les géographes de l'époque, la plus mythique, la plus magique, la plus fabuleuse des villes, mais aussi la plus mystérieuse, puisqu'aucun occidental n'en est jamais revenu, c'est Tombouctou. C'est intéressant que le lieu, cette espèce de Golconde, cette espèce d'Eldorado africain dont rêve René Caillé, soit précisément une ville. C'est vous dire à quel point ces villes, plus mystérieuses elles sont et bien entendu plus elles sont attirantes, mais c'est à quel point ces villes ont quelque chose de magnétique. C'est un phénomène humain. Et c'est un phénomène, en l'occurrence, mystérieux. Alors, aucun occidental, je vous dis, n'est jamais revenu de Tombouctou. On dit qu'un grand roi y réside dans un palais couvert d'or, d'ivoire et de pierres précieuses. On dit que les croyants y prient dans une gigantesque mosquée en pierre de taille. Évidemment, René s'abreuve de tous ces contes. Il rêve, il s'évade. Lui qu'on emmenait enfant à percevoir son père les chaînes aux pieds, il a besoin évidemment de rêves. Il ira, se dit-il, à Tombouctou. Il en fait le serment et, ce qui est assez fort dans ce genre d'aventure, dans ce genre d'histoire, c'est que les circonstances vont le servir. En 1815, on est après les 100 jours, hein. Vous savez que en 1814 l'Empire est tombé, Louis XVIII, le frère de Louis XVI, est remonté sur le trône, et puis Napoléon s'est enfui de l'île d'Elbe, il est venu reprendre le pouvoir pendant 100 jours, et après Waterloo, c'est la deuxième chute de l'Empire, si l'on peut dire, et le retour des Bourbons, le retour de Louis XVIII, à ce moment-là, René a 16 ans, d'ailleurs il voit passer Napoléon qui est parti pour l'île d'Elbe, pour l'île d'Aix, vous savez, c'est de l'île d'Aix que Napoléon s'embarquera et qu'il finira à Sainte-Hélène. Il voit passer le cortège de l'empereur déchu. À ce moment-là, sa grand-mère est morte. Il est recueilli par un oncle et il va finir par avouer à cet oncle quel est son grand projet. Il sait qu'une expédition est en train de se monter à Rochefort pour aller reprendre le Sénégal. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est dans la réorganisation, évidemment, des anciennes possessions françaises à l'issue de la grande défaite de Waterloo. C'est le traité de Paris. Et le 27 avril 1816, eh bien, René Caillé, il a 16 ans et demi maintenant, il va quitter son bourg et il a réussi à s'embarquer dans cette expédition du Sénégal. Il s'est fait embaucher comme mousse dans l'escadrille en direction du Sénégal. Il est à bord de la flûte La Loire. Il y a dans cette expédition 5 frégates, dont une extrêmement célèbre, puisque c'est le plus célèbre des naufrages du 19e siècle, c'est la frégate La Méduse, vous savez, qui va subir mauvaise fortune sur les bancs d'Arguin, qui va se retrouver naufragée. Et vous savez ce qu'il adviendra des survivants, en tout cas d'une partie des survivants de cette frégate La Méduse, qui vont monter sur le radeau où ils s'entre-dévoreront, etc. Mais il fait partie de cette expédition-là, René Caillé, et il arrive, il n'est pas sur la frégate qui fait naufrage, il arrive à Saint-Louis, donc au Sénégal, le 10 juillet. Et au Sénégal, il apprend qu'une expédition est organisée par 2 Anglais pour s'enfoncer vers le centre de ce continent, vers le centre de l'Afrique. Elle part de Kakondi, sur le Rio Nunez, on est donc un peu plus loin, à 300 km de là, avec pour but d'aller rechercher le fameux Mungo Park. Vous savez, cet explorateur écossais, personnage lui aussi flamboyant, extraordinaire, et qui à l'époque avait déjà disparu depuis 10 ans. Un personnage incroyable, Mungo Park, une sorte de pic de la Mirandole du 19e siècle, d'une culture incroyable, totalement déraisonnable, entreprenant hors de mesure, jeune, robuste. Il avait réussi à atteindre le Niger en partant de la Gambie, et après 13 mois pour le moins difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait fini dépouillé, molesté, réduit en esclavage et abandonné. Et nombreux, à l'époque, nombreux sont les aventuriers d'Afrique qui vont comme ça y laisser leur peau. On cherche Mungo Park, on part à sa recherche, et ce qui est extraordinaire, c'est que René Caillé fait partie de l'expédition.
Jean Sibelius sur Europe 1, un extrait de Tapiola. Et on revient à René Caillé, notre explorateur français.
Du nord au sud, en quelque sorte, et des brumes finlandaises au soleil écrasant de l'Afrique. Il faut vous dire que René Caillé n'a pas réussi à rejoindre la fameuse expédition anglaise. Il était bien parti pourtant, il était plein de bonne volonté, mais il a fini complètement épuisé, les pieds en sang. Il s'est écroulé littéralement. Il a été recueilli à Dakar par des marins français, dont un officier qui lui a expliqué qu'il était impossible qu'il arrive jamais en Gambie, qu'il valait mieux pour lui renoncer. Alors, et afin de reprendre des forces, il s'embarque dans une expédition pour les Antilles, où il va faire preuve d'ailleurs de toutes sortes de qualités. On le dépose à la Guadeloupe, mais lui ne songe qu'à l'Afrique. C'est son horizon. Il a envie d'aller découvrir cette ville de Tombouctou qui continue de l'attirer au-delà de tout. Alors il repart pour la France, où il retrouve sa sœur Céleste. Il lui emprunte toutes ses économies, 300 francs de l'époque, ce qui n'est pas tout à fait nul, et le voilà parti pour le Sénégal. C'est sa deuxième expédition. Et là, il apprend que l'expédition anglaise de Gray se trouve coincée, est en panne, si je puis dire, dans le Bondou. Elle est l'otage d'un roi local qui exige une rançon pour le laisser passer. Gray a envoyé un de ses accompagnateurs faire des provisions. Et après toutes sortes de négociations, il accepte que Caillé se joigne à l'expédition. Ils vont donc ensemble pénétrer dans l'intérieur du continent africain. C'est une expédition très compliquée, hein, dans le désert. Je vous passe toutes les souffrances, évidemment. Caillé n'est pas très costaud, il faut bien le dire. On le voit dépérir à vue d'œil. Alors, au moment où on arrive près de Gray, le fameux roi qui détenait tout le monde sous sa férule revient sur sa parole, et malgré tous les cadeaux qui avaient été promis, il n'autorise pas les explorateurs à reprendre la route. Ils vont donc être obligés de faire demi-tour, et ça tourne à la déroute, cette histoire. Gray est fait prisonnier, l'accompagnateur de Caillé, il s'appelle Partarieux, emmène tout le monde jusqu'au sud du Sénégal. Caillé arrive complètement complètement mais au bord de la mort. Il est fiévreux, à bout de force, il sera hospitalisé à Saint-Louis. Il va travailler là comme cuisinier et le voilà de retour en France, à Lorient cette fois. Alors il va voyager un peu entre Bordeaux et les Antilles pendant 4 ans. C'était l'époque du grand négoce de vin, vous savez. Et il a néanmoins toujours à l'esprit cette volonté d'aller découvrir Tombouctou. Eh bien, il va repartir pour l'Afrique une troisième fois. Il revient en 1824 au Sénégal avec toujours cet objectif obsessionnel de réaliser son rêve de jeunesse. Le gouverneur de Sénégal à l'époque, le baron Roger, essaie de le dissuader, mais il n'y arrive pas. Caillé puise sa force dans ses rêves, en quelque sorte, et il sait qu'il va y arriver, mais la seule condition pour qu'il accède à ses rêves et pour qu'il aille au bout de son expédition, c'est de partir seul. Et alors, il va monter tout un plan. Il va se faire passer pour un maure, comme on disait, hein, pour un habitant, pour un autochtone. Il va s'agréger à une caravane. Il apprend les coutumes, les rudiments de la langue arabe. Il apprend à déchiffrer le Coran. Il va se présenter comme le fils d'un riche négociant français qui aurait été capturé en quelque sorte et qui s'est enthousiasmé pour le Coran. Et d'ailleurs, il veut se convertir. Vous voyez qu'il va très loin. C'est un jeu risqué, mais il a cette obsession. J'y arriverai, dit-il. Je vivrai et je reviendrai. En août 1824, il part de Saint-Louis pour le pays des Braknas. Alors, il faut l'imaginer habillé de bleu, hein, un peu à la manière Touareg, avec le petit bonnet rouge bordé de blanc, comme sont les autochtones. La seule chose qui le distingue des autres, d'ailleurs, c'est la couleur de sa peau, finalement. Et il arrive le 10 septembre. Il réussit à convaincre le roi des Braknas, qui s'appelle Ahmed Dou. Maintenant, d'ailleurs, lui-même a changé de nom. Il n'est plus René Caillé. Il s'appelle Abdal Ali, c'est-à-dire l'esclave de Dieu. Et c'est en avril 1825 qu'il va finalement arriver à ses fins. Au moment où il arrive au but, où il touche au but, on peut dire qu'il a complètement changé. Hein. Il faut imaginer un corps qui est devenu très hâlé, très musclé. Il est devenu lui-même très très maigre. Il a une grande barbe noire maintenant. Bref, il s'est fondu en quelque sorte dans la population locale. Alors il va retourner chez le baron Roger qui lui avait promis de l'aide matérielle. Il a été remplacé. Le nouveau gouverneur s'appelle le baron Hugon. Et il ne veut pas du tout aider René Caillé. Alors, eh bien, pour réunir les fonds, René va travailler comme surveillant sur un chantier. Il attend le baron Roger qui, quand il rentre de métropole, lui explique qu'il n'a plus du tout de moyens à sa disposition, qu'il ne peut pas lui donner la moindre subvention. Alors, eh bien, René Caillé va travailler à Sierra Leone pour c'est la grande époque des fabriques d'indigo, bien entendu, et le peu qu'il gagne, il l'économise. Il a un salaire annuel de 3600 francs tout de même, qui lui permet de mettre comme ça un peu d'argent de côté, toujours dans la perspective d'aller au bout de son expédition. Finalement, il se présente au gouverneur anglais en espérant que Sierra Leone, les Anglais vont l'aider, mais les Anglais ne l'aident pas davantage que les Français. Sa sœur lui envoie une lettre. C'est une coupure de journal qui annonce que la Société Géographique offrirait 10 000 francs à tout voyageur qui parviendra à revenir de Tombouctou porteur d'informations. Ah ben ça, c'est le petit coup de pouce qui manquait. Caillé décide de partir avec ses 2000 francs d'économie. Il va de nouveau se joindre à une caravane qui fait le commerce du cuir, du sel, de la gomme. Et le voilà qui, de nouveau, d'abord suit la côte et puis entre vers le centre du pays. Il sait que c'est risqué. Il veut passer pour un indigène. Et si on découvre la vérité, il sait qu'il risque de finir de manière atroce. Alors il s'invente toute une histoire. Il dit qu'il est né à Alexandrie de parents arabes, qu'il a été emmené en France par des Français de Bonaparte, vous savez, et puis que son maître, qui était un commerçant, l'a affranchi au Sénégal, qu'il est de nouveau libre, qu'il voudrait regagner son pays, l'Égypte, etc. Tout ça pour se faire passer pour un bon musulman, tout ça pour être accepté de la caravane et aller toujours un petit peu plus loin en direction de Tombouctou.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, avec notre explorateur René Caillé, direction Tombouctou.
Alors, je vous passe évidemment toutes les souffrances René Caillé. Il a 26 ans maintenant. Il est reparti le 19 avril 1827 de Saint-Louis. C'était son cinquième séjour à Saint-Louis, toujours avec cette idée de s'aventurer dans les terres vers Tombouctou. Je vous passe les difficultés innombrables, la famine, il ne se nourrit que de riz, de riz à l'eau, le scorbut qui est généralement le compagnon des gens mal nourris, la difficulté pour se repérer avec des instruments de mesure extrêmement rudimentaires, mais néanmoins après 20 jours de navigation sur le Niger, le voilà à Kabara, la capitale soudanaise, et le 20 avril 1828, il faut vous dire qu'un shérif local, un chef de village local, lui a confié une mission commerciale à Tombouctou et lui a donné pour ça une pirogue avec des marins. Eh bien, le 20 avril 1828, il franchit les portes de Tombouctou. Ah, il est bien malade. Il a le visage ravagé par le scorbut, les paupières rongées par le vent de sable, les yeux brûlés par le soleil. Il est à bout de force, mais il est heureux. Vous imaginez ce que ça représente pour lui. Il a découvert la ville de ses rêves, la ville dont il a tant rêvé enfant. En entrant dans cette cité tellement mystérieuse, écrit-il, je fus saisi d'un sentiment inexprimable de satisfaction. Je n'avais jamais éprouvé une sensation pareille et ma joie était extrême, mais il fallait en comprimer les élans. Il écrira tout ça plus tard dans son fameux journal d'un voyage à Tombouctou, grâce auquel moi je peux vous raconter tout ça et qui a été un ouvrage très connu, très, très célèbre à cette époque sous la Restauration. Il est quand même, disons-le, assez déçu, René Caillé, parce qu'il avait imaginé une sorte de cité d'or extraordinaire, je vous dis, qui était la cité de richesse et de gloire, et finalement, voilà ce qu'il découvre, je le cite, « Je trouvais que le spectacle que j'avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente. Je m'étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville une toute autre idée. Elle n'offre au premier aspect qu'un amas de maisons en terre, bien mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, d'un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. » Disons-le, il est déçu René Caillé. Tombouctou n'est finalement qu'une ville africaine. Entre son fleuve et son désert, il n'y a pas du tout trace des richesses qu'il espérait y trouver. Alors, il essaie néanmoins d'accumuler sur la ville en question le plus d'informations possible. Il n'a pas oublié le concours de la Société de Géographie. Il accumule les notes, il monte au sommet de la tour de la Grande Mosquée pour mieux observer la ville et dessine tout ce qu'il voit. Caillé admire notamment ses maisons anciennes aux fenêtres finement travaillées, toutes les portes embellies de clous, toutes ces architectures qui sont hérissées de bout de poutre, vous savez, c'est le type même de l'habitat de cette région de Tombouctou. Il dessine tout ça, bien entendu, ça va faire des dessins qui seront ensuite publiés. Mais disons-le, il ne s'attardera pas à Tombouctou. La déception est sans doute trop grande et l'envie de profiter de sa réussite également. Il sera resté en tout 14 jours seulement à Tombouctou, après quoi ce sera le retour vers la France, vous savez. Alors, il décide de ne pas du tout reprendre le chemin du départ. Là, cette fois, il taille au plus court, si je puis dire. Il remonte vers le nord, vers le Maroc. Alors, d'abord, il s'agrège à une caravane d'esclaves avec 800 chameaux qui remontent vers le Maroc. Il prend la route le 4 mai de cette année, 27. Et puis, alors, il faut imaginer là encore toutes les difficultés, les marches de nuit pour moins souffrir de la chaleur, etc. Il est à bout, René Caillé. Cela fait 14 mois qu'il marche, qu'il souffre. Il ne supporte plus la chaleur, la faim, la soif et les interrogatoires permanents, parce qu'évidemment, ses compagnons de route veulent en savoir davantage sur lui et il est constamment en grand danger. Finalement, il arrivera à Fès le 12 août 1828. Le 15, il est à Meknès. Le 19, à Rabat. Et le 7 septembre, le voilà à Tanger. Alors, il va bénéficier du soutien d'un consul local, de la porte, qui les larmes aux yeux le félicite de son succès, puisqu'il est le premier occidental à revenir de Tombouctou. Et là, il lui propose de l'aide. Mais en fait, ce que veut Caillé dans un premier temps, c'est manger, tout simplement. Manger à sa faim. La chance de Caillé, ce sera que de la porte soit lui-même membre de la Société de Géographie. Alors, il va faire venir une goélette. Caillé, déguisé en marin, monte à bord, direction Toulon, où il débarquera en octobre. De la porte écrit au vice-président de la Société Société de Géographie, Monsieur Jomard, pour annoncer la nouvelle et la société envoie tout de suite 500 francs à Toulon pour permettre à Caillé de regagner Paris dans de bonnes conditions. Dès son arrivée dans la capitale, Caillé se rend chez le fameux Jomard, qui l'assaille de questions. « Mais alors, vous rentrez de Tombouctou, mais comment est-ce? Quelle est cette ville? Racontez-nous !» La curiosité est intense à cette époque et... En réponse, Caillé lui tend simplement ses feuillets de notes. Il ne s'attend pas à ce qui va lui arriver. Le 5 décembre suivant, le 5 décembre 1828, la Société de Géographie le reçoit, mais alors avec tous les honneurs, ce sera pour lui un véritable triomphe. Et l'on peut imaginer l'attitude assez ambivalente finalement de René Caillé face à ce triomphe qu'il a mérité par la somme d'efforts consentis au cours d'années et d'années de travail et de risques pris, et en même temps la déception foncière. Le rêve, ce qui l'avait animé, ce qui l'avait attiré dans le cœur de l'Afrique, n'en valait peut-être pas la peine. Comment expliquer ça à des géographes qui, eux, sont passionnés par tout ce qu'on leur raconte, sont en train déjà de faire des thèses sur l'habitat de Tombouctou et se disent que c'est une ville de plus qui est entrée dans l'escarcelle des géographes.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.